Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et premier extrait de ce zapping, Apolline Matin ce matin. L'éducation nationale doit-elle être plus ferme contre les harceleurs? En Haute-Marne, un jeune ado de 14 ans a été victime de harcèlement très violent de la part d'un autre élève. Après une semaine, il est revenu chez ses parents avec 38 hématomes sur tout le corps. Témoignage ce matin de Frédéric, son papa, qui dénonce le laxisme du corps enseignant.
Après sa première semaine de rentrée et sa première année en internat, quand il est rentré, qu'il s'est déshabillé pour prendre sa douche, on a constaté donc des bleus sur les parties de son corps, jambes et bras. Il y en a une vingtaine sur chaque jambe, une dizaine sur les bras. Voilà, ce sont des coups donnés par le poing, la main, des pincements. Il a un camarade, alors pas de classe, mais d'établissement, donc avec qui il commençait à jouer le lundi. Et finalement, les jeux ont fini par des maltraitances, quoi. Et c'est la maman, donc dès le lundi matin, s'est présentée à l'établissement, a été reçue par la principale, la CPE et l'infirmière. Bien sûr, ils étaient stupéfaits de voir mon enfant ainsi. Bon, il n'a pas été ausculté par l'infirmière. Je pense que le personnel enseignant a un petit peu minimisé la chose en voulant garder dans les murs le problème. Ça veut dire qu'on n'a pas conseillé de nous déplacer chez un médecin ou à la gendarmerie. En fait, voilà, on nous a posé la question de savoir est-ce que vous désirez continuer à scolariser votre enfant ici. J'ai appris par la suite qu'en fait l'académie nous dit qu'il semble qu'aucune situation de harcèlement ne soit dans le cas présent caractérisée, qu'on parle juste d'agression. Parce que en fait, les enfants ne se connaissaient pas d'avant. Ça faisait que quelques jours qu'ils se côtoyaient. Donc à partir de combien de jours on parle de harcèlement?
Julien Damon, c'est absolument scandaleux ce qu'on vient d'entendre, le témoignage de Frédéric, le papa de ce jeune garçon. Et l'éducation nationale, elle a un rôle là-dedans, c'est pas possible quand même.
Oui, alors les bras nous en tombent. Enfin, quand on a vu les images, les auditeurs peut-être ne les ont pas vues, c'est absolument surréaliste que ceci se produise. Deuxième chose qui me semble surréaliste, c'est que donc il faudrait qualifier juridiquement ce qu'est un harcèlement qui serait plus important qu'une agression. C'est quand même assez surprenant. Mmh. Là, il y a de l'agression, il y a de la violence, et allons-y plus largement, il y a de l'ensauvagement. Enfin, ce gamin a été mordu, frappé dans tous les sens. Torturé. Et donc ça, comme torturé, pourquoi pas. Peut-être est-ce un rien exagéré, mais en tout état de cause, on peut le prendre le terme, mais juridiquement, il a été agressé, battu par ses camarades. Et comme ça ne correspond pas au sujet à la mode qui est celui du harcèlement, l'éducation nationale n'agit pas. C'est quand même fou. Alors, soyons concrets. Il est tout à fait exact, au regard de tout ce qui se passe un peu partout, ces métastases de tous les problèmes, que la solution pour le gamin, ce n'est pas immédiatement que les parents aillent porter plainte, parce que ça ne changera pas son martyr. Et qu'en effet, c'est terrible.
Les parents de l'autre gamin, de l'agresseur, je pense qu'ils vont peut-être faire quelque chose.
Si on a bien compris, il n'y a pas qu'un agresseur. Là. Ils s'y sont mis à plusieurs. Et pour faire ça, je pense pas que.
Il y en a qu'un.
C'est un
enfant qui est identifié, qui a un camarade.
Il a fait ça tout seul comme un grand. Bah, c'est encore plus grandiose. En l'espèce, ce qui est fou, parce que quand c'est plusieurs gamins qui en pulvérisent un, en effet, il vaut mieux extraire le gamin de cette classe où c'est problématique. Là, il y a un gamin qui en frappe un autre de façon ultra sauvage, et la solution, c'est que la victime soit mise de côté. Ce qui est surréaliste. Et donc, dans ce cas-là, en l'espèce, c'est immédiatement au commissariat, ou si c'est en zone gendarmerie, dans la brigade de gendarmerie, et plainte de la part des parents à l'encontre du gamin, mobilisation afin que les parents du gamin aillent devant les responsables de l'école. Mais il est vrai qu'il y a une forme de lâcheté et d'un principe général de pas de vague dans les établissements scolaires aujourd'hui.
Oui, c'est
bien horrible.
Ça vous étonne, Perico Legas, ou finalement, c'est la digne continuité de ce qui se passe dans les établissements scolaires?
Dont la hiérarchie de l'éducation nationale, proviseur, recteur, gère déjà sur une autre question, qui est l'islamisation, pendant les cours de sciences, les comportements, des phénomènes de. Laissez-moi finir ma phrase, vous allez tout de suite comprendre. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de parler?
Non, je parle des profs qui signalent.
Oui, je parle des profs qui signalent qu'ils ont un problème, on leur dit rien, il se passe rien.
Ouais, d'accord.
Et on finit par décapiter Samuel Paty il a été lâché par sa hiérarchie. C'est la même chose, on démissionne.
Non.
Ce sont des lâches. Donc, à plus forte raison, si face à un phénomène qui est l'islamisation, on dit pas de vague, calmez-vous, c'est pas tout à fait comme ça, on va arranger, on va voir. Vous imaginez la lâcheté de l'éducation nationale devant des maltraitances d'enfants à l'intérieur d'une classe. Je voulais juste établir une hiérarchie. Voilà, tout simplement. Mais c'est gravissime.
Moi,
je connais des cas autour de moi.
C'est
pour ça que je suis en colère. Je connais des cas autour de moi. Démission de l'établissement, démission de la hiérarchie. On monte les procédures, rien, pas de vague. Et les profs vous disent, on ne peut plus rien dire. C'est les profs qui nous alertent. On ne peut rien dire. Donc si on ne peut pas dire quand c'est très grave, on ne peut pas dire non plus quand c'est simplement grave. Voilà, on en est.
Bah, qu'est-ce qui est plus grave, je trouve, que
c'est. Mais c'est pas, non, on fait pas
le silence de la hiérarchie de l'éducation nationale.
Cette hiérarchisation n'a pas de sens. Rien ne va dans cette histoire. Le fait que ça soit pas du harcèlement parce que ça n'a eu lieu qu'une fois. Le fait qu'on dise au gamin, bah, on va retirer plutôt le gamin plutôt que de d'intervenir. Le fait de ne pas faire de vagues. Rien ne va. Rien ne va. Il faut effectivement, comme l'a dit Julien, porter plainte, porter l'affaire en public, et Dieu merci, les médias s'en font l'écho et peut-être que ça va réagir. Brigitte Macron, qui est très attachée à la question du harcèlement et qui intervient régulièrement, devrait se saisir de ce dossier, par exemple, parce que ça peut, pourquoi pas, aboutir à quelque chose.
C'est ce qu'a fait le père. Il a déposé plainte à la gendarmerie. Les gendarmes se sont rendus dans l'établissement pour rencontrer la direction. Et il y a une procédure d'exclusion de l'enfant
qui
est présumé comme étant l'agresseur, qui est en cours.
Mais le mal est fait.
Ce qui est fou, pour terminer, c'est la réponse de prime abord, c'est de ça. La direction. C'est vrai qu'on a eu de très nombreux témoignages de parents d'enfants harcelés qui disaient la seule solution qui nous est présentée,
c'est de changer votre
enfant d'établissement pour plus qu'il soit victime.
Alors que l'éducation devrait être un sanctuaire où on protège les enfants. C'est hallucinant.
C'est tout le contraire. Oui, un sanctuaire.
Exactement.
Je disais, ce n'est plus un sanctuaire à aucun niveau. Et on s'écrase. On peut en parler de lâcheté des pouvoirs publics face à la sécurité dans les transports, lâcheté de l'éducation nationale quand il y a un problème de ce genre.
Les GG ce matin, faut-il des étrangers pour repeupler nos campagnes? C'est la proposition d'Emmanuel Macron dans le cadre d'un projet de loi relatif à l'immigration en France. Il souhaite revoir la politique d'accueil des étrangers, notamment en les répartissant mieux sur le territoire. Une idée utopique pour Bruno Pommard, ancien policier du RAID et maire d'un petit village dans l'Aude.
Franchement, avec toute la bonne volonté que j'ai, Dieu sait si je suis engagé dans le social pour aider les enfants, etc. Mais je me vois mal accueillir des familles d'étrangers. Alors, il y a les saisonniers qui viennent évidemment pour ramasser les fruits, etc. On en a besoin parce que les Français veulent pas le faire. Donc ça, c'est réglé. Ça marche. Mais accueillir des familles dans de bonnes conditions, on l'avait déjà proposé. Non, parce que je suis pas capable, moi, de leur offrir un boulot. Qui plus est, même un logement, mais surtout le transport. Parce que quand on habite un village comme le mien, Castelnaudary est à 15 kilomètres, si les gens doivent aller travailler là-bas, il leur faut une voiture.
Combien d'habitants dans ton village?
127 habitants.
Oui, donc pour aller bosser à Castelnaudary, il faut une voiture.
Il faut une voiture, donc il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en équation. Je pense que c'est quand même un peu utopique comme idée.
Alors la semaine dernière, dans Estelle Midi, on avait parlé de ce village de Bretagne, Calac, qui va être repeuplé par des réfugiés politiques. En fait, ce qui permet aussi de faire marcher les écoles et le commerce, que ce sont des gens qui bossent quand même. Julien Damon, est-ce que vous êtes pour cette proposition d'Emmanuel Macron?
Plus que circonspect, mais comme d'habitude, ça dépend de quoi on parle. L'immigration est faite de diverses sources. Vous avez une immigration de travail qui existe encore et sur laquelle il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit de la part de l'État pour dire vous allez aller à tel ou tel endroit. Gens s'implantent où ils se souhaitent. Premier élément. Deuxième source d'immigration, c'est l'immigration par regroupement familial. Si les gens sont implantés à tel ou tel endroit dans ce village, leurs proches viennent. Pourquoi pas? Là, ce dont on parle en réalité, c'est du sujet de la demande d'asile et des réfugiés pour lesquels il y a ce qu'ils baptisent une orientation directive. C'est-à-dire que vous arrivez en France, et on vous dit, tu peux avoir des aides, tu peux avoir un hébergement même à tel ou tel endroit. D'ailleurs, si tu leur refuses d'aller là-bas, on te coupe tes aides.
Oui, ils ont prévu qu'ils refusent. Ils arrivent en France pour être réfugiés, ils vont pas refuser en plus à un endroit.
Il y en a plein qui le refusent. Ils préfèrent être à Paris qu'à Pleumeur-Bodou. Enfin, je dis Pleumeur-Bodou,
c'est pas un endroit sympa.
Mais peut-être, mais en termes de perspective de carrière, ça ne marche pas aussi bien qu'au cœur de Paris où il y a des communautés qui permettent de faire fonctionner le parcours vers le haut de ces personnes en difficulté. Mais c'est une vieille lubie. Mussolini le premier avait pensé à ça, de repeupler les Napoléon le troisième y avait pensé aussi, repeupler les campagnes avec les pauvres. Là, c'est les pauvres du monde entier qu'on veut distribuer sur les territoires. Je trouve que l'État, là-dessus, a des directives qui pèsent sur les élus locaux. Si les élus locaux veulent aménager... Le mal, c'est de dire qu'on fait de la politique d'aménagement du territoire directive, en disant ça se passera comme ça. Moi, je pense que ceci est de la responsabilité éminente des maires et des conseils municipaux que de dire on veut accueillir davantage de personnes dans notre village, on veut que ceci passe par les centres d'accueil de réfugiés qui s'appellent les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
Les réfugiés, ils ont eu un métier dans leur pays,
ils savent faire des choses, ils sont compétents. Très bien, il n'y a que des médecins, des ingénieurs,
les demandeurs
d'asile n'ont pas le droit de travailler pour le moment. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? C'est pas le sujet. Quand ils arrivent dans le village, c'est un poids pour le village, c'est tout. Les réfugiés, en effet, mais ils sont très peu
plus que
nombreux.
Quelqu'un au RSA qui travaille pas.
Bah, on l'a vu avec les Ukrainiens. Avec les Ukrainiens, ça a posé des problèmes.
Bah, si, parce que quelqu'un qui est au RSA qui travaille pas, il peut être là depuis longtemps. Et les gens qui sont au RSA,
je vois pas pourquoi tu fais une différence entre quelqu'un qui est réfugié, qui arrive et qui arrive dans un village.
Je dis demandeur d'asile et réfugié, ça n'est pas la même chose. Les demandeurs d'asile, il y en a, je sais pas, 100, 150 000 en France. Les réfugiés, il y en a chaque année un flux, c'est le tiers ou 20% des demandeurs d'asile qui se voient accorder en effet ce statut. Et lorsque tu es réfugié, d'ailleurs, immédiatement, tu peux toucher le RSA.
Dans le cadre de la Bretagne, par exemple, dont on a parlé la semaine dernière, en fait, ils ont listé 78 boulots à pourvoir dans la région. Parce que, alors après, il faut dire la vérité. C'est pas des boulots de neurochirurgien, on est d'accord, c'est des boulots pénibles que les Français ne veulent pas faire, comme a dit Bruno Pomard.
Donc, ça peut être de l'immigration de travail. Oui. Donc, pourquoi pas? Mais je ne vois pas pourquoi l'État ferait des efforts supplémentaires pour implanter localement.
Mais c'est pas des efforts supplémentaires, parce que ce sont des villes qui ont besoin qu'on s'implante.
Elles en ont besoin, mais il faut bien que l'État.
Elles sont en train de mourir, donc ça va te permettre de garder tes écoles. Ça te permet de garder tes écoles ouvertes, d'avoir des gens qui vont.
S'ils ont des enfants, soyons clairs.
Et quand Bruno Pomard dit je ne peux pas, je ne vois pas sur quel critère il ne peut pas.
Si tu as des boulots,
il ne peut pas, parce que par exemple, les élus locaux estiment qu'ils ne peuvent pas gérer l'arrivée d'une nouvelle population. Parce qu'ils préfèrent.
C'est pas 100 000 personnes qui arrivent, ça va, c'est 3 familles.
C'est pas 3 familles, c'est pas 100 000 personnes par village. Mais si on prend le nombre de demandeurs d'asile nouveaux chaque année, justement, c'est plus de 100 000. Et donc on est là en train de dire ah, il faut pas embêter que les bobos parisiens et que les bourgeois parisiens, on veut en mettre
c'est
partout.
Pas Paris,
c'est
les villes pauvres où il y a déjà beaucoup d'immigration, c'est ça. Et en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut pas surajouter.
Vas-y, pas surajouter. Donc on va pas surajouter, mais on va ajouter là où c'est pas forcément nécessaire.
On va répartir.
Pourquoi faut-il répartir?
Il faut répartir parce que
le sujet, c'est de mieux gérer notre immigration. Pas de chercher. Bon, très bien, ça paraît joli comme ça. Moi, je trouve que ce sont des folies anciennes. On se dit, on prend les pauvres et on leur impose d'aller à des endroits où, d'ailleurs, ils ne veulent pas aller, eux, les premiers.
Périco Légas.
C'est une très grande idée.
Alors,
avec ce bémol, elle est condamnée à réussir. Parce que si ça foire, il y en a qui vont considérer que c'est un grand remplacement, que c'est une assignation libre de résidence, que c'est un colmatage. Parce que nous avons un problème en France, vous le savez. Et les deux sociologues que sont Jérôme Fourquet et Guilly disent bien, il y a une migration qui continue vers les grandes agglomérations. Et ce gouvernement est plutôt dans une tendance avec le Grand Paris à faire des grandes agglomérations. Édouard Philippe disait, la ruralité, c'est un peu terminé. Il faut des grands ensembles. Donc, on continue à faire migrer les populations de la province, des autres territoires, excentrés, justement, cette France périphérique, vers les grandes villes. Ça, c'est un moyen d'endiguer et d'arrêter ce processus qui est tragique pour la France. Et si, en plus, dans la diversité, ça permet de repeupler les campagnes. J'avais suggéré à Stéphane Le Foll, à un moment donné, de prendre ces populations immigrées qui étaient désœuvrées, quelquefois même à la limite de la délinquance, de leur dire, on leur alloue un lopin de terre, on en fait des paysans. Même s'il n'y a que 10% qui réussissent.
C'est Mussolini,
Et Mussolini, ça dépend comment c'est fait, quel esprit. Là, on est dans un esprit républicain, dans un esprit démocrate, dans un esprit humaniste. On donne de la terre à des gens. Là, on les installe, on donne de la terre à des gens. Ils la cultivent. On a besoin de paysans en France. On a des millions d'hectares en friche. On a besoin de redonner, en plus, avec ce qui est en train de se passer, on le sait, depuis le Covid, on a besoin de redonner une vie à l'agriculture française. Si ces mesures permettent de relancer la ruralité, de repeupler, à condition que ce soit accompagné de mesures sociales, de mesures économiques. Voilà. Et là, les pouvoirs publics de l'État sont aussi responsables. Donc peut-être que ce maire là, il est confronté sur son territoire précisément à une limite de capacité, mais l'idée en soi, elle est formidable et je sais, on a vu des Ukrainiens arriver alors. Voilà, mais il y a des Ukrainiens qui ont prouvé que ils ont apporté une vie qu'il n'y avait plus dans le village. Voilà. Alors ensuite, ils ont dû repartir, mais ça je crois que c'est une très grande idée, elle doit être bien gérée et c'est l'avenir de notre ruralité.